Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue chez Les Gones pour cette 4e émission. Les Gones, c'est votre émission sur Lyon. Tous les 15 jours, vous le savez maintenant, hein, nous vous tenons au courant de l'actualité locale en jouant avec. Nous vous donnons la bougeotte avec la rubrique sortie et nous mettons à l'honneur une association lyonnaise. Cette semaine, nous recevons l'antenne lyonnaise d'une association qui intervient dans les prisons, le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et pour nous parler de cette association, hein, qui est plus connue avec son acronyme GENEPI, c'est son responsable communication, Simon, qui a pris place derrière le micro. Bonjour Simon.
Bonjour, bonjour à tous.
Ainsi qu'une bénévole. Bonjour Nina.
Bonjour.
Et en face de vous, chers Nina et Simon, eh bien mes gones. Alors dans l'argot lyonnais, les gones, ce sont des sales gosses. À Transistor, les gones, ce sont eux. Une gone qui, pour ses études et son instruction personnelle, mélange sciences politiques et philosophie. Autant dire qu'elle a de l'humour. Bonjour Tatiana.
Bonjour Thomas.
Un gone pour qui le GENEPI, ce n'est pas uniquement une liqueur jaunâtre qui vous ravigote lors des froides soirées d'hiver, mais une belle association où il s'engage. Bonjour Florent.
Bonjour Thomas.
Une gone qui n'est pas spitophobe, vu qu'elle nous fait, et vous fait, chers auditeurs, saliver avec ses recettes lyonnaises, la plus toquée des gones, Marie-Ève.
Bonjour Thomas, mais sans jargon, s'il te plaît.
Ça veut dire qu'il a peur de la salive, spitophobe.
Oui, bah Florent m'avait expliqué avant l'émission. Donc.
Très bien, vous rencardez. Une aussi qui se rencarde, une gone qu'on accueille avec un tapis rouge, à qui on ne propose pas un fauteuil mais un trône, et qui exige d'avoir une loge pour se délasser avant les enregistrements, notre grand Manitou, son Altesse Sérénissime, la présidente de Transistor. C'est bon, j'en fais pas un peu trop là, Marie ?
Et tu m'apporteras un mojito. Merci Thomas.
Très bien. Bon, et puis un gone Cédé Marnais également qui nous parle sport et dont vous allez tout à l'heure découvrir la voix, Romain. Mais fini les présentations, il est temps de faire des goneries et l'actualité nous appelle. Actu donc pour cette première partie, on va jouer avec l'information locale. Marie va vous instruire à sa manière sur l'histoire de Lyon. Romain vous donnera votre brevet de sport lyonnais. Mais avant de plonger dans Lyon, deux gones, Tatiana et Florent en l'occurrence, se travestissent pour vous donner leur avis sur ce qu'il se passe en France. Et je suis très heureux de les retrouver, ils m'avaient manqué. Bonjour Pierre-Christian, bonjour Marie-Claude.
Bonjour Monsieur Lacombe.
Bonjour.
Vous venez aujourd'hui nous présenter votre association, le Gros Lupri.
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, mardi 7 novembre 2017, nous venons ici dresser un bilan et parler de notre association, le Gros Lupri. Mais MC, que cache cet acronyme au son gutturaux et barbare ?
Eh bien PC, il s'agit du Groupement pour le Luxe en Prison, une association créée dans la tourmente de l'année 2014 au lendemain, rappelez-vous, de la triste mise en examen de 60 députés et sénateurs pour fraude fiscale. Comme PC et moi avions de bons amis, des proches qui souffraient ou risquaient de souffrir de la violence carcérale dans ce contexte troublé, nous avons monté cette association pour les aider à passer leur période de détention dans des conditions on pourrait qualifier de correct.
Oui, en effet, il s'agit avant tout de rendre le quotidien, qui peut parfois virer au glauque, n'est-ce pas, vivable pour des gens habitués à un certain standing. Ah, on n'y pense pas assez, mais arriver en cellule à Fleury quand on vient d'un F1 de banlieue ou d'un 200 mètres carrés dans le 7e arrondissement, ce n'est quand même pas exactement la même chose.
Oui, d'ailleurs, on peut dire que dès l'année suivante, votre association a connu un succès fulgurant, c'est ça?
Bah, bien sûr, les dons se sont vite multipliés, d'autant qu'ils étaient déductibles de l'ISF, et les gens se sentaient plutôt concernés par le projet. projet, hein.
Oui, avec cet argent, nos actions concrètes étaient d'améliorer l'ordinaire, permettre aux domestiques des détenus de cantiner des produits de qualité. Nous avons ainsi rapidement noué des partenariats avec quelques petits traiteurs de la capitale. Je pense à Fauchon, à Ediard, qui ne souhaitent pas perdre leurs clients.
Les petits traiteurs, oui.
Oui, mais face aux conditions inhumaines dans lesquelles vivaient ces détenus, ces amis, n'est-ce pas, nous avons rapidement compris l'ampleur que devait prendre notre action et envisager de racheter plusieurs cellules pour les aménager en loft, par exemple, et faire installer des cuisines correctement équipées ainsi que quelques modestes caves à vin, n'est-ce pas?
Bah oui.
Les détenus ne sont quand même pas des animaux, il faut bien le dire.
C'est le minimum, mais je crois qu'il n'a pas abouti, votre projet.
Mais, monsieur Lacombe, oui. Nous avons été dépassés par notre succès. La cause des prisonniers aisés était vraiment très mobilisatrice à ce moment-là. Notre réseau de connaissances s'est révélé fructueux. Les époux Balkany nous ont carrément proposé de faire construire et de gérer un centre de détention estampillé gros louperie sur leur commune de Levallois.
Rapidement, ce qui est fou, hein, c'est que Martin Bouygues, dont le groupe avait déjà une certaine expérience de la construction de prisons, s'est dit intéressé par le projet. Hein. C'est à cette mobilisation enthousiaste qu'on reconnaît une vraie cause.
Enfin, je vous arrête, la prison, c'est quand même une chose publique. C'est pas privé.
Monsieur Lacombe, nous avons su rassembler au-delà des partis. Tous les élus, de droite comme de gauche, se sentaient concernés par notre cause et ont appuyé nos démarches.
D'ailleurs, un très beau moment après l'inauguration de la prison Gros-Louperie était de voir Jérôme Cahuzac et Jean-François Copé partager leur fumoir pendant leurs 6 mois de détention. C'était transcendant.
En tout cas, la prison du Gros-Louperie à Levallois-Perret était une aubaine pour le rapprochement familial des détenus qui étaient, pour la plupart, domiciliés dans les Hauts-de-Seine.
C'est bizarre, hein,
ouais. En hommage aux courageux élus locaux qui avaient permis ce projet, nous avons appelé une aile de la prison l'aile Balkany. Ils l'ont d'ailleurs honorée de leur présence pendant un peu moins d'un an. Le rez-de-chaussée abrite d'ailleurs encore la permanence UMP de la commune.
C'est un beau succès finalement, Gros-Louperie.
Eh bien, maintenant, notre établissement s'est singulièrement vidé depuis la réélection de Nicolas Sarkozy, hein, qui a déclaré une amnistie générale pour les détournements de fonds en politique. Alors, cependant, nous gardons de bonnes relations avec lui, puisqu'il a mené la fin de sa campagne depuis notre cellule présidentielle de Levallois, aménagée par le Gros-Louperie. Hein.
D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur un projet, en partenariat avec l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, pour utiliser cet établissement afin d'accueillir les membres des forces de l'ordre condamnés pour coups et blessures, en prévision de prochaines manifestation. Nous allons d'ailleurs fonder une seconde association spécialisée, le groupe EMI, groupement pour une peine minimale qui a de beaux jours devant lui.
Bon bah merci d'être venu, c'était donc politique fiction un petit peu aujourd'hui.
C'est tout naturel Thomas.
Toujours un plaisir d'aider son prochain.
Merci à MC alias Tatiana et sous les traits de ce cher PC, c'était Florent bien sûr. Des questions, les réponses surtout de Mégone et celles de Simon et Nina du Génépi. Hein. Il est temps maintenant, chers auditeurs, de jouer avec l'actualité locale. Et pour cela, je vous demande ce qui, à Lyon, va augmenter de 4,8% en 2015.
Le prix d'un ticket de TCL.
Oh, elle est trop forte aujourd'hui.
C'est parce que le service s'est considérablement amélioré. Hein. On s'en rend compte, la ligne B ne marche toujours pas après 21h. Non, c'est quoi la raison ? Ils ont des...
Oui, alors la raison, c'est que tout simplement, il y a une hausse de la TVA de 5,5 à 10%, donc qu'il répercute. Et aussi parce que, j'ai appris ça, mais TCL augmente ses tarifs tous les ans de 2%. Ils appellent ça une augmentation annuelle normale. Ainsi, le ticket à l'unité coûtera 1,80 € à partir du 1er janvier prochain. Mais c'est pas tout, hein. Quand on est étudiant, qu'on a la petite carte, vous savez, bon, bah, c'est 30,20 € par mois maintenant, alors que c'était 28,80 €. Tu parlais des conditions de transport dans TCL, t'as un petit coup de gueule à pousser, Florent ?
Non, mais juste moi, en tant que personne de Paris, déjà ça m'énerve, les gens se mettent pas du bon côté dans les escaliers mécaniques, déjà, je pense qu'il faudrait les éduquer pour ça. Et globalement, c'est vrai qu'attendre 10 minutes le métro en semaine, en heure normale, enfin, je trouve ça un peu étrange. Enfin, je veux dire, surtout si on paye 70 centimes de plus, tu vois, genre...
C'est vrai.
Je sais pas, ou alors faut qu'ils nous massent.
De l'autre côté, ça reste toujours un tout petit peu moins cher, surtout avec les réductions que les transports parisiens.
Non.
Quand même.
Bah non, si. Justement, le carnet de ticket est plus cher.
Mais il est déjà plus cher.
En tarif réduit, si. En tarif réduit, c'est moins cher. Il n'y a pas de tarif réduit à Paris.
Oui, mais t'as la moitié qui est pris en charge par ton établissement. Hein.
C'est-à-dire ?
Bah je crois sur les, il me semble sur la.
Attends, bon, parce que moi je n'ai jamais bénéficié de ça.
Non, mais il me semble que sur les, mais de... ici tu peux en bénéficier.
Il y a aussi. Des communes mafieuses.
D'ailleurs, hein, puisqu'on parle du métro lyonnais, depuis le 30 octobre et jusqu'au 30 novembre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut découvrir...
Le métro marchera normalement, partout dans Lyon.
Quel
c'est
idiot.
Étonnant, préparez-vous les gars, attention.
C'est 21 clichés du photographe François Sola, décalé, hein, qu'on peut découvrir à la station Pardieu, dans le couloir qui vous mène à la gare, avec le tapis roulant, vous savez, vous voyez...
C'est couloir, le couloir vert, vert moche.
Eh bien, il n'est pas vert moche, maintenant il est vert moche avec des photos magnifiques.
Mais c'est merveilleux.
Découvrir jusqu'au 30 novembre. L'exposition, elle est baptisée Gone Underground, donc je pouvais pas, hein, vu le titre de notre émission, ne pas en parler.
Oh Thomas, t'as fait tout ça pour nous, c'est trop mignon.
T'as vu, hein, je vous chouchoute en fait, les viennoiseries avant l'émission, les références particulières. Non, non, mais ceci, je fais attention à vous. Et alors François Sola, en fait, il a repris un peu une idée de Janol Apin qui, dans les années 90.
Janol Apin. Sérieusement, c'est un nom. Genre, déjà, on avait Nina et Simon, on n'est pas loin de Nina Simon, tu vois, c'était cool, mais alors Janol Apin, je trouve qu'on fait...
Mais en fait, je me demande, parce qu'il est français, si on devrait pas dire Janol Apin, et c'est encore plus... Bref, cet évident photographe que tout le monde connaît dans les années 90, bien sûr, il avait fait à peu près la même chose à Paris que François Sola fait maintenant à Lyon, c'est-à-dire qu'il a mis en scène, hein, de façon décalée, les noms des stations avec des clichés, donc je vous invite eh bien, à aller voir, ça vous occupera un petit peu quand vous traversez ce couloir un petit peu.
En exclusivité, Pardieu représenté par un quart d'hostie. C'est super sympa, c'est vraiment la alors, photo c'est pas avec
ça,
talent.
Ce n'est pas ça, mais c'est l'idée, effectivement. Quoi. Pour Vieux Lyon, tu as quelqu'un qui est déguisé
Scar, mais en...
avec dans un costume de lion et il a une petite canne pour faire voilà, le Vieux Lyon. Mais il y a plus drôle, quand même. Hein.
Il a été chercher loin, le gars.
Et pour découvrir l'ensemble des 57 clichés, c'est sur le site internet gone-underground.fr qu'il faut aller. C'est maintenant à vous de jouer, chers auditeurs, comme Megon, et vous gagnerez peut-être, en partenariat avec le Ninkasi, votre place pour le concert de Niro le mercredi 26 novembre prochain.
Niro, également peintre espagnol d'ailleurs.
Non, Niro.
La journée des homonymes.
Et si vous ne le connaissez pas, Niro, c'est ça.
Je sais pas où tu vas, pour ton nom non plus, je suis perdu comme toi, je veux faire du rendement. Pour que nos fins de mois soient moins dures que nos vies, mon rêve, faut faire du changement. Si tu perds mon sol, on va voir au-dessus ce qu'on peut faire en dessous pour les haies du zoo. Je me bats en barcon, je me libère des zoos. Je perds des sous, je récupère du sou.
À l'instant, Niro était perdu sur Transistor, mais pour vous, chers auditeurs, c'est gagné. En tous les cas, si, dans la continuité de la question d'il y a quelques instants, vous me dites ce qu'est le citral. Écoute, Florent, on fait ce qu'on peut pour animer une émission. Citral.
C'est un jus de fruits.
S-Y-T-R-A-L, n'écoutez pas Tatiana, elle vous induit en erreur.
Je propose qu'un jour Florent se mette à ta place et fasse lui-même le conducteur, ce serait drôle. Hein.
Pour le 1er avril, on fera ça. Vous avez la réponse, vous n'avez pas de mauvaises idées comme Marie-Ève, inscrivez-la dans la partie commentaire de la page de l'émission, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous rappelle également, hein, que grâce à nous et à notre partenaire Le Comédia, vous pouvez gagner 2 places de cinéma. Pour cela, il faut envoyer vos photos les plus décalées, les plus extravagantes de Lyon et participer ainsi au concours Insolitement Lyon. Les gones, hein, se réuniront à la fin du mois pour désigner le meilleur cliché. Détail des 2 jeux grâce à leur règlement disponible sur le site. Bon allez Marie, remballe ton appareil photo et sors un gros livre d'histoire, celui de Lyon. Et tu vas nous parler cette fois-ci des Carolingiens.
Les 11e, 10e siècles, c'est l'époque carolingienne. Et l'époque carolingienne, c'est le moment où, à Lyon, on nique la logique. La logique, c'est elle, une jolie fille intelligente et sur laquelle tout le monde est passé.
Ça commence bien.
Sous Charlemagne, Lyon est une ville de clercs crétins et dépravés. Crétins et dépravés, ça veut dire qu'ils chantent faux et qu'ils ne connaissent pas les écritures saintes. On a encore niqué la logique. Une fois, Lesdrade a voulu relever le niveau. Lesdrade, c'est l'archevêque de Lyon sous Charlemagne. Il note tous ces trucs qui vont pas. Pas assez d'église dans la ville, pas assez de chanoines. Pas assez de bouquins et surtout pas assez d'églises dans la ville. Pour relever le niveau, il a fondé une école de chant. Ça a pas donné The Voice et des chanteuses à voix, mais au moins des mecs qui suivent la liturgie de la capitale Aix-la-Chapelle. Pour relever le niveau, il a aussi fondé une école de lecture des textes sacrés. Un jour, je vous ai dit que les Lyonnais avaient déserté Fourvière à la fin de l'Antiquité. C'était vrai. Moi, je suis cohérente avec moi-même, je ne baisse pas la logique et même le sol. Donc les Lyonnais habitent sur les rives de la Saône.
Mon Dieu.
Là-bas, c'est pas clean, le bâti est dense et les maisons sont surpeuplées. Les Lyonnais habitent aussi la Presqu'île. Les maisons sont récentes, espacées et sises dans un cadre semi-rural. Donc la Presqu'île, c'est un putain d'espace périurbain. Et les rives du Rhône, j'y pense même pas. De toute façon, il n'y a pas de pont sur le Rhône. En 843, les trois petits-fils de Charlemagne se partagent l'empire carolingien. Il y en a deux qui trouvent le moyen de couper Lyon en deux. On a encore niqué la logique. Charles Chauve, pas chauve, juste très rasé et avec deux longues moustaches, récupère le côté Saône. Lothaire, propre sur lui, imberbe et les cheveux courts, récupère la Presqu'île. De fait, Lyon est quasiment indépendant. Son archevêque la gouverne parce que les rois et empereurs sont trop loin pour le faire et que ces petits cons n'ont pas assez de pouvoir. Et là, c'est la merde. Depuis le nord de la France, les Normands descendent et remontent le Rhône. Les pierres hongrois arrivent de l'est. Les Sarrasins débarquent par le sud. Comme toutes les villes un peu grandes, Lyon se fait régulièrement piller, dépouiller, baiser et viscérer. Peut-être pas à chaque fois. En fait, peut-être qu'on n'en a pas grand-chose à cirer, et peut-être que Lyon n'est pas atteint par ses raids. Source lacunaire. En 1000, Lyon est dans sa période. Tiens, les invasions ralentissent. C'est le moment où les mecs décident de se faire une muraille. Comme les mecs ont du fric mais pas trop, ou des couilles mais pas trop, ils font une clôture. Une clôture, c'est une courte muraille, et si ça se trouve, elle était juste en bois. Vous savez ce qu'on lui fait à la logique. En 1000, la ville est disputée par trois pouvoirs locaux. Les comtes du Forêt, les chanoines de la cathédrale Saint-Jean et l'archevêque de Lyon. Il y a beaucoup trop de clercs célibataires au mètre carré. J'ai vu tout ça, je me suis demandé comment la population lyonnaise a pu perpétuer. Il n'y a pas que la logique qu'on a niqué.
Allez, retour au présent, on continue de jouer avec l'actualité locale grâce à cette question. À Lyon comme ailleurs, hein, qu'est-ce qui est entré en vigueur le 1er novembre dernier ?
Une taxe sur les chrysanthèmes.
Ça n'est pas une taxe.
Alors attends, des augmentations de 4,8%, des entrées en vigueur. T'essaies de nous faire passer un message codé, Thomas, ou...
Peut-être, allez savoir.
Un bashing discret, tu sais, mais...
C'est très positif, là, ce qui vient d'entrer en vigueur. Et puis, excusez-moi, mais l'augmentation des tickets TCL n'a rien à voir avec le gouvernement. Hein. Crions pas au loup.
Oh bah, attends, selon valeurs actuelles, tout à voir avec le gouvernement, moi, je ne lis que ça. Hein,
Moi, je lis la bonne presse, monsieur.
La météo, mon ami, il fait moche. François Hollande est sorti aujourd'hui.
Plutôt que lire des revues un petit peu spécieuses, répondez donc à cette question, cher Gone. C'est vrai, hein, on s'en rend compte surtout dans les villes, et surtout dans les grandes villes comme Lyon, mais qu'est-ce qui est entré en vigueur le 1er novembre dernier, partout en France ?
Un rapport avec diminution du CO2, aspect écolo.
La réforme territoriale.
Peut-être un rapport avec cet indice. Écoutez bien ce que vous chante Julien Doré. On attendra l'hiver pour s'écrire qu'on se manque, que c'était long hier, que c'est long.
Le chauffage.
La trêve hivernale.
Bien sûr, il faisait des gestes de groupie.
On peut faire une trêve de Julien Doré aussi, s'il te plaît. Ça fait plusieurs fois.
Ah, pourtant, tu étais en mode groupie, tu faisais tous les gestes, tu faisais la chorégraphie.
J'essayais de mimer trêve hivernale, mais on comprend rien.
Encore une fois, l'indice là, musical, bon, il met sur la piste, mais je sais pas quoi en penser.
Ah oui, on peut en parler, Tatiana, si tu veux. Bon bref, les propriétaires ne pourront plus expulser les locataires pour impayés, c'est ça la trêve hivernale. Hein.
Par contre, si tu mets Julien Doré trop fort, c'est toujours possible.
C'est une clause que je ne connaissais pas. Alors dans le Rhône, hein, dans les 10 dernières années, on assiste à une aggravation, restons un peu sérieux, des expulsions locatives, 37% en plus de décisions d'expulsion, selon les chiffres donnés par les organisations sociales et confirmés par la Chambre nationale des huissiers de justice, c'est-à-dire qu'on c'est souvent la fête dans cette chambre nationale. Mais la trêve hivernale, ce n'est pas uniquement l'arrêt des expulsions, c'est aussi l'hébergement d'urgence. À Lyon, à la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, elle estime que chaque jour, près de 330 personnes ne reçoivent pas de réponse à leur demande d'hébergement en raison d'une pénurie de places. Alors, petite question de culture générale, chers Gone et chers invités. Puisque je parle de la trêve hivernale, à qui la doit-on, cette trêve hivernale ?
À l'abbé Pierre.
Eh oui, à l'abbé Pierre, Marie-Ève.
Il n'existe aucune version sonore authentique de l'appel. Celui-ci a donc été enregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les sites d'urgence, ce n'est même plus assez urgent.
Un document de la Fondation Abbé Pierre et un appel du 1er février 1954 sur les ondes de Radio Luxembourg à l'époque, qui reste, hélas, cet appel hein, toujours d'actualité. Petit coup de projecteur donc sur la Fondation Abbé Pierre, qui mène des actions si nécessaires pour la dignité des personnes démunies. Un exemple hein, parmi d'autres, ces rencontres au National du Sport Solidaire qui ont lieu chaque année près de Toulon en 2014. C'était leur 12e édition, ce qui me fait une magnifique transition. Lui, c'est la 4e fois qu'il vous parle de sport sur les ondes de Transistor. D'habitude, c'est par ma voix qu'il vous renseigne sur l'actualité du sport à Lyon. Mais magie du Zoom et des hasards du calendrier, pour une fois, vous allez entendre sa voix. Je parle bien sûr de Romain et c'est sûr, il va y avoir du sport.
Bonjour et bienvenue dans cette chronique sportive. Une voix chaude et sensuelle vous la présente à la place de celle nasillarde de Thomas. Trêve de palabres et commençons tout de suite avec le foot et l'OL masculin. L'Olympique lyonnais a eu toutes les peines du monde pour battre l'OGC Nice sur le score de 3-1. Les lyonnais, mal embarqués, ont su renverser la tendance grâce à Malbranck, ainsi que le bien coiffé, respect Franck Provost, et très en jambes. En même temps, c'est plus pratique pour courir, Alexandre Lacazette. En foot féminin, notons la belle performance des Lyonnaises, qui, en battant 2-1 les Parisiennes, sont seules en tête du championnat. À titre indicatif, la différence de buts marqués et de buts encaissés, le goal average donc, de l'OL féminin est de plus 44, alors que celui de l'OL masculin est de plus 14. Comme quoi, les gonzesses savent pas jouer au foot! Un tout petit mot de basket maintenant, pour de nouveau faire exulter notre joie après les victoires successives de l'ASVEL. Non, je déconne. Toujours en dents de scie, le groupe de Villeurbanne a du mal à se trouver. Preuve de cette inconstance, 2 victoires en 3 journées d'Eurocoupe, et seulement une 14e place en championnat français. C'est comme si un boucher savait faire du foie gras, mais pas couper un steak. Passons maintenant de Tony Parker à Chabal. Rugby donc, à Lyon avec son équipe Le Loup. Face à une équipe de Toulouse, qui remonte la pente vers le succès, sans passer par l'Autrec. Lyon n'a rien pu faire. Un match dur, avec une fessée à la fin. 41-17 en faveur des Toulousains. Seuls les habitués des clubs SM de la capitale des Gaules ont dû apprécier. Florent va d'ailleurs nous en parler plus profondément, juste après ma chronique. Terminé, petit clin d'œil américain.
Let's get ready to the rumble!
Et là, vous me dites, faire le cri de ralliement des boxeurs américains alors qu'on va parler de NBA, c'est con. En effet, pour Halloween, le meneur star des très prometteurs Phoenix Suns, Goran Dragic, a loué un dinosaure pour effrayer ses coéquipiers. Baby T, de son petit nom, a provoqué de nombreuses frayeurs et de nombreux fous rires, mais a reçu aussi quelques coups de poing et même un bidon d'eau en pleine face. Comme quoi, même les Slovènes se convertissent à Halloween. Ils sont forts, ces Amerlocs. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais si je vous manque déjà, sachez que puisqu'on aime l'échangisme ici, c'est une nouvelle personne de l'équipe qui lira ma chronique à ma place la prochaine fois. Et n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le yak.
Bon alors, Florent, habitué des clubs SM.
Pas du tout. Mais je crois que j'avais bien perçu le côté un peu salace de ton frère sur les autres chroniques que tu ne mettais pas autant en valeur qu'il le fait lui-même.
Oui, il le met très bien en valeur. Bon alors, cette voix de Romain que vous découvrez.
Mais il est un peu d'outre-chiotte là avec les non, mais on dirait qu'il est enregistré dans une pièce entièrement en carrelage.
C'est la vengeance de Florence.
C'est les toilettes. Alors, enfin, non, ou la baignoire.
Moi, je suis déjà allée chez Thomas. C'est pas une maison en métal. Mais là, c'est vrai que je me demande si je suis vraiment déjà allée chez lui.
C'est dans la caravane. C'est de son frère vit dans la caravane à côté. Parce
c'est qu'on t'a pas tout montré, Tatiana. Après l'actu, on passe maintenant aux associations. Aujourd'hui, nous recevons le GENEPI, le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Association qui œuvre en faveur du décloisonnement des institutions carcérales, notamment par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. Et pour en parler, ils sont là depuis le début de l'émission, mais maintenant toute l'attention se porte sur eux. Nina, bénévole, et Simon, responsable communication. Alors, le GENEPI, il a été fondé en 1976, et grâce à Florent et à Marie-Ève, quelques chiffres qui concernent maintenant l'antenne lyonnaise plus particulièrement.
Nombre de membres.
Donc 78 à Lyon, un gros groupe.
Le budget.
3 700 € en prévisionnel, si j'ai bien compris.
C'est bien ça, c'est bien ça.
Et l'antenne lyonnaise du GENEPI intervient dans 4 établissements pénitentiaires.
Corba, Saint-Quentin-Fallavier, Villefranche-sur-Saône et l'établissement pour mineurs de Mézieux.
Eh bien merci, cher Gone. Les actions du GENEPI, elles visent à recréer du lien entre la société et les personnes détenues. Et pour cela, en milieu carcéral, Simon, le GENEPI, il organise des ateliers scolaires et culturels. Ça ressemble à quoi, ces ateliers ?
Alors exactement, il y a 2 types d'ateliers. Les ateliers scolaires, ça consiste à apporter un accompagnement aux personnes incarcérées dans toutes les disciplines. Et c'est souvent un accompagnement qui se fait face à une personne. C'est donc un accompagnant et un accompagné. Et à l'inverse, les ateliers socioculturels se déroulent face à plusieurs personnes. Et c'est vraiment des activités qui permettent de sortir du cadre carcéral.
Qu'est-ce que tu réponds, Nina, à ceux qui disent « Oui, mais alors bon, les ateliers scolaires, c'est surtout leur apprendre à rédiger un CV ?»
Non, pas du tout, en fait. Ça dépend quelle est la demande. Là, par exemple, il y a le centre de semi-liberté en plus cette année que les 4 établissements déjà cités, où là, par exemple, il y a eu une demande de l'administration pénitentiaire d'effectivement pouvoir rédiger des CV, etc. Bah, s'il y a une demande, en fait, pour ça spécifiquement, oui, alors on pourra aider les personnes à rédiger un CV, mais il y a des personnes, par exemple, là, cette année, on a un Basque qui demande de pouvoir... c'est de la psychologie, il repasse sa licence de psychologie. Simon, l'année dernière, accompagnait une personne qui repassait sa licence de droit, donc étant en première année.
C'est vraiment très personnalisé, hein, ce que vous faites comme accompagnement, ouais. On entend bien d'ailleurs le terme d'accompagnement même.
Plus d'être personnalisé, c'est même très libre, je dirais. C'est parce que aborder un atelier scolaire, par exemple, c'est la personne qui va l'animer va avoir la liberté vraiment de soit de l'envisager comme un TD, comme des cours, pourrait-on dire, soit ça va pouvoir être fait de manière très créative et très, très alternative.
Et justement, vous êtes accueilli comment par les personnes détenues ? L'accueil qui vous est réservé, est-ce qu'il est positif ? Est-ce qu'ils sont en demande de ça ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est chaque relation est unique, même dans une relation de ce type, d'accompagnant-accompagné. Mais de par mon expérience, je peux dire que oui, c'est généralement très, très positif.
Mais les personnes que vous recevez, c'est déjà des personnes qui ont la volonté de faire cette démarche-là ou c'est vraiment vous proposer à tout le monde ?
Alors, cette question est difficile. c'est souvent des personnes qui ont la volonté de le faire, en scolaire toujours. Mais après... cette volonté, elle peut être portée par des motifs qui vont être de l'ordre de leur situation de personne incarcérée, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est incarcéré, avoir un bon dossier, ça passe aussi par des activités au sein de la prison. Et du coup, il se peut que parfois le GENEPI soit instrumentalisé dans ce sens-là, pas que le GENEPI d'ailleurs, toutes sortes de formations en prison.
Alors on parle du lien et de l'accueil qui vous est réservé, avec parfois des idées derrière la tête des personnes détenues. Quelle est, Nina, la relation qu'entretient le GENEPI, cette fois-ci, avec l'administration pénitentiaire ?
Assez bonne. Enfin, on essaye en tout cas qu'elle soit assez bonne pour maintenir justement le partenariat qu'on a depuis de nombreuses années. Après, parfois c'est un petit peu compliqué comme... de partout, je pense, parce qu'on est des personnes intervenantes, bénévoles, donc ça veut dire des personnes extérieures. Donc il y a aussi une relation de confiance qui doit se créer avec l'administration pénitentiaire. Je pense qu'on a réussi à l'avoir, le tout c'est de ne pas tout gâcher en fait.
Alors justement, vous ne gâchez pas tout, vous retissez du lien, ça c'est hyper important. Alors on a vu à l'intérieur des prisons, mais le lien c'est dans les deux sens. Hein. Et c'est pourquoi vous menez également des actions sur la place publique pour informer, pour sensibiliser sur la réalité de la prison en France. C'est nécessaire, on la connaît mal la réalité de la prison en France quand on n'est justement pas en prison.
Oui, il y a beaucoup de de clichés, en fait, quand même.
Comme quoi, comme clichés, par exemple?
Comme Enquête Exclusive, M6.
Oui, ils sont émissions. Véhiculés par les médias, les clichés. Oui, c'est oui, à oui. cause des médias qu'il y a
oui,
des clichés.
Oui, c'est sûr. Enfin, moi, le premier atelier où je suis allée au centre de Corba, la première chose qu'une des personnes détenues m'a dit, c'est « Ah, t'as regardé l'Enquête Exclusive, alors tu dois savoir tout sur nous, en rigolant. » Et il a voulu que je lui pose des questions, en fait, pour casser derrière... tout ce qui avait été dit la veille, en fait.
Oui, parce que Simon, la réalité, c'est évidemment loin d'Enquête Exclusive. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Puis ces clichés, en plus d'être véhiculés par les médias, à mon sens, ils sont renforcés par cette zone d'ombre véritable qu'est la prison.
D'où l'importance de sensibiliser, d'informer le public. Et une fois n'est pas coutume, hein, chers auditeurs, pour la playlist, hein, vous le savez, on quitte la scène musicale lyonnaise et on se la joue thématique au plus grand bonheur de Florent. On commence donc avec un extrait de Méprison d'Alain Bachung, issu de l'opus mythique Fantaisie militaire, qui bénéficie d'ailleurs en cet automne d'une réédition avec inédits et versions de travail, ainsi que d'une édition sous forme de livre CD. Bref, cher Père Noël, si tu m'écoutes, en haut de ma liste, il y a forcément le grand Chung Baba, monsieur Alain. Mais sans attendre... ça ne s'arrange pas, dis donc. Sans attendre Noël, c'est pas toi qui vas me l'acheter, mon cadeau, j'ai bien compris. Eh bien, Méprisons tout de suite sur Transistor.
À l'endroit où c'était pris, les gens sont des légendes, mais leurs âmes prennent le maquis. Dans les herbes folles, tu peux courir, c'est pas un jeu.
Alors encore, je permettrai des remarques, bien sûr, sur... Julien Doré, sur Benjamin Biolay, mais aucune remarque ne sera tolérée sur Alain Bachung.
C'est juste le fait que tu l'appelles Chung Baba qui est, oui. qui est bizarre.
Tu vois, bah écoute, tu sais pas comment je t'appelle en privé. Hein. Alors...
je préfère pas savoir ce que tu fais quand tu m'appelles en privé.
J'ai des piles, pose la question de la dignité, un peu de dignité, Florent, à ce micro. Celle-ci, elle se pose d'autant plus hein, quand on lit des témoignages comme celui-ci qui va faire redescendre l'ambiance tout de suite hein, à propos du centre pénitentiaire de Nouméa. Je cite. La maison d'arrêt est composée de cellules de 12 mètres carrés, où cohabitent jusqu'à 6 personnes, alors que selon les normes hein, définies par l'administration pénitentiaire, il ne devrait pas y avoir plus de 2. Chaque cellule comporte 3 lits superposés d'un côté, 2 lits superposés de l'autre côté et souvent, entre les deux rangées de lits, un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards. Alors on pourrait croire qu'il s'agit d'une situation qui remonte au début du XXe siècle, mais pas du tout. Il s'agit des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté et elles datent, ces recommandations, du 30 novembre 2011. Et cette situation, on la retrouve en métropole hein, également. Par exemple, le 25 avril 2013, la Cour européenne des droits de l'homme condamnée à l'unanimité la France suite à l'action intentée par une personne détenue à la maison d'arrêt Charles III de Nancy qui présentait un taux d'occupation de 123%. Alors j'ai pris cet exemple, hein, mais des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, il y en a à l'appel. Bref, Nina, Simon, vétusté, surpopulation, les prisons, c'est la honte de la France ?
Un peu, oui.
C'est une honte et c'est aussi un reflet des priorités de la France, ou plutôt des non-priorités de la France.
On s'occupe pas des prisons.
On peut dire ça, ou alors on s'en occupe trop aussi, dans un certain sens. Enfin,
oui.
Tout dépend de quel point de vue on se place.
Justement, je parlais là de cette situation à Nouméa, ils sont 6 dans un endroit où à peine à 2, ça serait déjà invivable, hein. faut bien le dire, 12 mètres carrés, hein, c'est pas l'hôtel Le Ritz, hein. Pour c'est lutter sûr. Contre la surpopulation. Il faut plus de moyens financiers pour construire plus de places de détention, c'est ça la solution ?
J'ai un avis divergent. Construire plus pour faire plus de places, ça revient à incarcérer plus aussi. Et puis ça revient à aussi, je pense, enfin c'est très difficile ce phénomène, il est beaucoup discuté. Est-ce que rajouter des places en prison, ça permet d'avoir un meilleur confort de vie en prison ? Je pense pas que ce soit la solution. Je pense que la solution, elle est ailleurs. Il faut chercher la cause, et la cause, elle est peut-être dans le système en lui-même, le système pénal, le système carcérale. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à ça?
Dans les positions de Genepi, adoptées lors de l'AG du 15 juin 2014, il y a ce sous-titre, hein, « Construction, piège à con ». Dans le paragraphe qui suit, vous dénoncez notamment l'inadéquation relative des nouvelles prisons, comme la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, inaugurée en 2009. Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces nouvelles prisons, comme celle de Corbas ?
Elles sont très froides, déshumanisées. Il y a des vitres, en fait, les personnes ne communiquent pas. À Saint-Paul, donc Corbas a remplacé Saint-Paul, il y avait un grand hall où tout communiquait. Les surveillants avec les personnes détenues pouvaient communiquer, les détenus entre eux. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, on voit dans les salles d'atelier, quand ils essayent de parler, appeler un surveillant, ils doivent crier à la porte, vraiment très fort. Enfin, c'est froid. Enfin, quand on sort de là-bas, moi, je sais que je suis vide d'énergie, on le dit tous. Je ne sais pas comment... Comment c'est possible de rester jour et nuit là-bas ?
Et alors du coup, vous êtes contre le tout carcéral, on l'aura compris. Simon, tout à l'heure, tu commençais un peu à dire ça. Mmh. C'est quoi, si on ne met pas les gens en prison, qu'on veut en mettre moins en prison ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les solutions ? Les autres solutions à la détention ?
Ah, on en a plein.
Ouais, vas-y, vas-y.
On a toutes les peines alternatives... j'ai déjà peut-être les travaux d'intérêt généraux, tout simplement. Parce que là, quand on regarde, c'est quand même peuplé de personnes qui ont commis des délits mineurs. Donc, ça va du deal à la consommation de stupéfiants, des choses qui ne mettent pas vraiment en danger, en fait, la société. Il n'y a pas réellement besoin d'un enfermement. Enfin, pour parler d'un enfermement, je trouve que c'est assez dur.
Il y a trop de gens, Simon, en prison pour des délits mineurs ?
Bien sûr, beaucoup de pour vol de portable, par
exemple. Pour la majorité, en fait. La majorité des personnes détenues. Enfin, on a beaucoup de clichés. Moi, quand je parle du Genepi, j'interviens là-bas, tout de suite, on me dit qu'il doit y avoir plein de violeurs. Non, en fait, on a principalement des personnes qui ont commis des petites infractions, en fait, comme ça pourrait arriver à beaucoup de monde.
Alors Nina, tu parles de clichés. On va essayer de les démonter et ça sera le quart d'heure polémique. On a entendu votre discours, il y en a un autre et je vais m'en faire l'avocat, pas par conviction personnelle, mais pour susciter le débat. Vous parlez de dignité des conditions de détention, mais leur dignité, les personnes détenues, est-ce qu'elles l'ont pas perdue le jour où elles ont commis ce crime ou ce délit ?
Absolument pas, ça arrive à tout le monde de déraper. Après, il y a plusieurs problématiques, là c'est très difficile de répondre rapidement, mais il y a à la fois l'erreur, le fait où les circonstances de vie difficiles poussent à faire quelque chose, et d'un autre côté il y a la répétition ou la maladie peut-être aussi, quelque chose qui se reproduit, qui va se reproduire, je sais pas moi, quelqu'un qui viole et qui reviole, c'est compliqué, même les actes les plus cruels restent humains.
Est-ce que vous comprenez, je continue dans ces clichés pour les démonter, est-ce que vous comprenez que pour certaines personnes, et notamment pour les victimes, même pour les délits, on parle de délits mineurs, les alternatives à la détention, souvent c'est considéré comme du laxisme ?
Non, je pense que c'est juste qu'ils sont bloqués dans un système d'esprit de vengeance, en fait. Je pense pas que ça fasse réellement du bien aux victimes de se dire « Ah bah elle a pris 15 ans en fait ». Enfin moi je dormirais pas bien personnellement. Après, moi je parle de médiation parce que je fais mes études là-dedans. Et une personne victime, en parlant avec l'auteur des faits, va clairement plus comprendre l'acte. Si une mamie s'est fait voler son sac, elle va lui demander « Mais pourquoi mon sac ?» Alors l'auteur des faits va lui expliquer « Parce que t'étais vieille et que c'était plus facile. » Et là, c'est peut-être juste ça qu'elle avait besoin d'entendre au final. Et c'est le système qui va nous pousser à vouloir réclamer la plus grosse peine en fait. Possible.
Alors vous comprenez que cela peut choquer, je continue à danser, cela peut choquer, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, même pour un crime, avec les remises de peine, avec la libération conditionnelle, avec les alternatives à la prison, finalement une personne condamnée, elle purge rarement la totalité de sa peine. Est-ce que c'est vrai déjà ? Et est-ce que vous comprenez que ça choque ?
Alors c'est vrai oui. C'est vrai oui, puisqu'il y a un système qui fait qu'il y a une peine qui est prononcée par un juge, et que cette peine, elle va être ensuite exécutée et adaptée du coup à la personne qui va purger cette peine. Et cette adaptation, elle passe par une réduction, mais ça peut être aussi une augmentation. Donc la peine prévue au départ peut autant augmenter en fonction du comportement que réduire en fonction du comportement que va avoir le détenu.
Le cliché, c'est de voir toujours que ça ne fait que diminuer. Toi, tu te dis, non, ça peut aussi augmenter puisque c'est personnalisé.
Effectivement, ça peut aussi augmenter. Tout dépend du comportement. Quelqu'un qui a un bon comportement, il va avoir le droit à des remises de peine, et plusieurs types de grâces qui font qu'ils vont faire moins. Mais ça peut très bien aller dans l'autre sens.
que ça choque, moi non plus, je comprends pas. Enfin, quand on parlait des victimes, si on a une victime, moi j'espère que derrière, bah, la personne incarcérée va peut-être être mon voisin. J'espère qu'elle va pouvoir se réinsérer. Donc c'est pas en lui augmentant sa peine, lui augmentant, que derrière elle va se réadapter à la société. Au contraire, plus elle va rester, plus ça va être compliqué la sortie en fait.
Bon, alors on va refermer la parenthèse réaco-polémique et je vais citer de nouveau les positions du Génépi adoptées lors de cet AG du 15 juin 2014. Je cite « Cette augmentation à comprendre du nombre de personnes détenues. Cette augmentation ne semble pas liée à une explosion de la délinquance, contrairement à ce qu'aiment à prétendre certains lobbies sécuritaires, mais bien à une politique pénale délibérée qui va dans le sens d'une répression toujours plus forte. » En réalité, hein, Simon, Nina, plutôt que de crier au laxisme, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt crier au caractère trop répressif de l'État français ?
Quand je disais tout à l'heure que des personnes qui commettent des vols de portables se retrouvent en prison, c'est pas une blague, et je trouve ça aberrant.
Oui, il y a une espèce de prévention pénale à se dire, on a des textes de loi pour tout, donc on est tranquille. Mais derrière, bah, il faut assurer, si on a un texte de loi pour ça, on a une peine, et du coup, bah, voilà, la peine, c'est souvent la prison.
Alors on parle de répression, de justice, de détention sur Transistor. Alors comment ne pas penser à la plus célèbre des chansons à propos d'une controverse judiciaire, Here's to You, à propos de l'affaire Sacco et Vanzetti, survenue dans les années 20 aux États-Unis et mise en chanson par la divine Joan Baez, qu'on écoute tout de suite sur Transistor. Pour une réinsertion sociale des personnes détenues qui fonctionnent vraiment et qu'on en donne les moyens. Et également, vous militez pour une plus grande mixité dans l'univers carcéral. En effet, hein, parmi les évolutions que connaît la prison, il y a cette féminisation du personnel pénitentiaire. En 2012, les femmes, c'était 20% du personnel de surveillance, alors que c'était 7% en 91. Alors même que le ratio du côté des personnes détenues, c'est 3% de détenus féminins et 97% de détenus masculins. C'est important qu'il y ait plus de mixité en prison, ça va dans ce sens de plus de liens qui est tissé.
Oui, quand on sort, il y a des femmes.
Ben oui, c'est tout bête, mais oui. C'est important cette mixité.
Oui, clairement.
Et c'est pas un peu dangereux ? Parce que tout de suite, voilà, tu parlais tout à l'heure de viol, etc. C'est pas un peu dangereux pour une femme ? Toi, en plus, t'es bénévole, tu peux en parler.
Bah oui, moi, je suis une femme, j'interviens, il y a 10 hommes, je me sens pas du tout en danger, pas une seule seconde.
Et t'as l'impression que c'est important qu'ils voient autre chose que le copain de détenu, etc., qu'ils voient aussi une présence féminine.
Ouais.
Tu le ressens comme ça ?
Enfin, on me l'a déjà dit, ça fait du bien, un peu de douceur. Je pense que les femmes amènent un peu de douceur.
Bon, avant de vous laisser avec Mégone, qui aussi sont spécialistes dans la douceur, je vous pose pour ma part une dernière question qui est rituelle dans cette émission. En quelques mots, c'est quoi pour vous l'engagement associatif ?
C'est des convictions qu'on met en acte à travers une association qui recoupe des valeurs qu'on peut avoir personnellement.
Simon parle de conviction, Nina, qu'est-ce que tu mettrais comme mot sur ton engagement associatif ?
Conviction.
Aussi, pareil.
Et douceur.
Conviction et douceur. Très bien, voilà. Je vous laisse maintenant avec Mégone et leurs questions après ce jingle.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Petite question sur la punition. Bon, alors, une incarcération, c'est toujours une punition. Et est-ce qu'il y a un travail qui est pensé sur, pourquoi pas dans les écoles, parler de la punition, parce que finalement, tous ces préjugés qu'on a, c'est on se dit, tu as fait le mal, tu vas être puni. Mmh. Voilà. Et est-ce que du coup, comment est-ce qu'on pourrait parler de la punition à des enfants et même à des adultes qui vont éduquer leurs enfants ?
Ouais, bah ça c'est sûr que ça commence. C'est hyper intéressant de parler de ça en fait, parce que ça commence à l'enfance, de comment punir son enfant. Après, je pense que c'est assez personnel quand on est parent de nous dire comment éduquer son enfant, comment le punir, la fessée, pas la fessée. Enfin, on l'a vu, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Après, moi personnellement, je pense que la punition, c'est pas une solution. Il faut plus amener à réfléchir l'enfant sur ce qu'il a fait. Je vois ma sœur qui est maîtresse, par exemple, elle donne, quand l'enfant a fait une bêtise, elle leur donne une fiche de réflexion. Donc ils partent, et pourquoi j'ai fait ça, et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, et qui est-ce que j'ai touché avec cet acte, la maîtresse, le directeur, mes camarades. Et ça amène une réelle réflexion, je pense.
En France, c'est malheureux, mais l'éducation est souvent résumée justement à la punition, à la sanction. Mmh. Que ce soit dans la petite enfance, à travers les punitions en tant que telles, ou à travers le système de notation aussi. On voit toujours ça comme ça, mais parler de punition, c'est aussi parler d'éducation, du coup. Et c'est vrai que c'est très important. On parlait de tout à l'heure de solutions à apporter à un système pénal répressif, trop répressif. Peut-être que cette solution est dans l'éducation, justement.
Alors lui, je ne sais pas s'il a été très bien éduqué. En tout cas, il vous pose quand même une question. Florent ?
Alors moi, j'avais une question par rapport à la privatisation des prisons qui a commencé notamment sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça a changé profondément quelque chose ? Et qu'est-ce que ça a changé ? Parce que c'était censé améliorer à la fois la faciliter pour l'État la construction de prisons et en même temps théoriquement améliorer les conditions de détention puisqu'on pouvait construire plus vite et donc plus adapté. Qu'est-ce que ça a changé en réalité ?
Moi, j'ai eu un témoignage d'une personne incarcérée qui disait que ça a changé le catalogue pour cantiner, qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes produits et qu'ils n'avaient plus les gâteaux qu'ils voulaient, les dentifrices, les gels. Ça avait changé ça et en fait, c'est leur quotidien, donc c'est déjà beaucoup.
Mais ça l'a changé en... Enfin, ils ont plus les mêmes produits. D'accord. C'est plus cher, c'est... Enfin,
C'est que ce n'est pas les mêmes produits, en fait, du coup. D'accord. Il y a des partenariats et apparemment, ils n'ont pas les mêmes produits qui leur sont proposés.
Marie-Ève.
Justement, ce ne sera pas une question décalée, mais ce sera une question du quotidien. J'aimerais bien que l'un de vous deux nous raconte en quelques mots comment se passe une visite concrètement quand vous, justement, faites circuler les savoirs.
Alors une visite, on rentre, avec Simon on a compté, on a 18 portes, on s'amuse à chaque fois. On attend à chaque porte, d'abord il y a la fouille où on passe comme à un avion en fait, comme à l'aéroport. On descend parce que les salles d'activité évidemment elles sont au sous-sol, sinon c'est pas rigolo. Et on rentre dans la salle et on attend, on a souvent des soucis avec les listes, on attend que les personnes viennent. Et quand les personnes sont là, si elles ont pas en même temps musculation ou promenade ou parloir, elles peuvent assister parce que le souci c'est qu'elles ont souvent plein d'autres choses en même temps, ils peuvent pas tout faire, donc ils mettent tout au même moment en fait. Et ensuite, y a une heure et demie, deux heures, ça dépend le créneau qu'on a, ou selon en fait le type d'atelier qu'on a mis en place, parce que ça peut être en ce moment on est art plastique, il y en a d'autres qui font des débats autour de questions d'actualité. C'est assez varié, il y en a qui font du rap à l'EPM, graffiti. Et donc on met en place toute notre petite activité pendant une heure et demie. Et ensuite on s'en va, un peu triste.
Par les 18 portes.
Par les 18 portes.
Alors merci, hein, merci d'être venus Simon et Nina pour nous parler du Genepi. Plus d'informations sur votre site www.genepi.fr. Et si on sortait maintenant, c'est comme ça, dans la dernière partie de l'émission, on donne envie de sortir, et pour cela, on se la joue collaboratif.
Oui, sauf Florent qui vient de partir, effectivement.
Et oui, il ne pourra pas vous donner son bon plan. Et d'ailleurs, on commence avec toi, Marie-Ève. Quel est ton bon plan à toi ?
Alors, je vais être plus sérieuse cette semaine. Je vous propose d'assister aux deux derniers concerts du Festival Jazz à Vienne, les deux concerts de novembre, le jeudi 6 avec Fatoumata Diawara, une magnifique chanteuse malienne, et le mercredi 26 novembre avec le Chicago Blues Festival, qui n'est pas un festival, mais une réunion d'artistes venus du Texas pour faire chauffer l'ambiance à Vienne.
C'est pas mal ça comme programme, pas mal. Simon, est-ce que c'est indiscret de te... Je sais pas, te demander une envie de sortie d'ici deux semaines.
Indiscret, pas du tout, pas du tout. Mais là, on va dire que, à titre personnel, j'ai réduit les sorties ces prochaines semaines.
Tu veux nous en parler, ouais.
Pour préparer un événement qui est finalement une sortie. C'est une course à pied entre Saint-Etienne et Lyon. La Saint-Élion.
Et quand exactement cette course?
Le 7 décembre à minuit.
Il va faire froid.
Eh oui, et le parcours complet, c'est 72 km. Donc j'ai...
Ah oui,
alors avec une lampe frontale et des grands collants, quoi.
C'est bien ça, c'est bien ça.
Sportif, très sportif.
Si vous le dites.
Constate, monsieur. Tatiana, sportive aussi, parce que tu fais du golf.
Oui, non, mais c'est bon, alors ça, si c'est pour qu'on discute de tout ça, non.
Moi, je présente des faits, mademoiselle.
Oui, mais il fait un peu froid, mais il faut se couvrir. Mais du coup, je vais peut-être pas forcément donner envie de sortir ce week-end, parce que je suis même pas encore bien sûre de moi. J'hésite à aller voir Massacre à la tronçonneuse, qui est en version restaurée actuellement, Comédia. Ouais. Du coup, voilà, s'il y en a qui l'ont vu, on peut essayer d'en parler. Je sais qu'il est interdit aux moins de 16 ans, que des images ont choqué pas mal de gens, enfin voilà. Je suis pas encore très sûre de moi, mais
alors,
pourquoi pas.
Avec Marie-Ève, c'est loin d'être un massacre à la tronçonneuse. Elle vous donnait envie de sortir, de danser. Et là, elle va vous donner envie de petit déjeuner. Après un jingle, on se met à table, foie de canut.
Comme promis dans notre dernier opus culinaire, voici aujourd'hui un point complet sur le petit déjeuner du canu, dont fait partie leur cervelle déjà évoquée. Si vous vous en souvenez bien, ce petit déjeuner porte un nom bien particulier, le...
Est-ce que vous avez bien révisé ?
Le mâchon.
Ah, c'est bien.
Pas difficile de deviner l'origine de ce mot. Et ils en avaient du lourd à manger, mâcher, remâcher et mâchonner. D'après tous les menus de mâchons que j'ai pu lire, il pouvait y avoir au choix cervelle de canut, tablier de sapeur, graton lyonnais, tripe lyonnaise, andouillette, ragoût de béati, ragoût de tête de veau, souris d'agneau confit, terrine, pot-au-feu, boudin tripe, charcuterie diverse, dur, joue de bœuf ou de porc, et j'en passe.
Bah
bref,
c'est light, hein.
Tout ce qu'on peut se mettre sous la dent en matière de nourriture protéinée, sans oublier le morceau de fromage final, miam, et l'arrosage copieux, le plus souvent avec du beaujolais ou du mâconnais.
Mais en fait, tu manges ça, toi, le matin, Tatiana, non?
Ah bah oui, mais faut tenir la journée, hein.
Et bon appétit, bien sûr.
Merci. Un peu d'histoire pour comprendre l'origine de ce phénomène de fringale compulsive et matinale. Dans le journal Le Progrès du 16 octobre dernier, on nous informe ainsi d'une version assez objective des faits. Un mâchon est donc un repas matinal pris entre 8h30 et 10h30 du matin par les canuts ou les maraîchers qui finissaient leur phase nocturne de travail et se simplifiaient la vie en mangeant les restes de la veille avant d'aller dormir. Le repas commence par un, je cite, « décrassage vineux » ou « mise en état de mâche ».
Ah, on n'en parle jamais assez.
Avec un verre de blanc, généralement du mâcon.
Oui.
Je vous fais remarquer au passage la parenté avec le mot mâchon, mais bon, je ne sais pas si ça vient de là également.
Enchaîne.
Puis tout le monde s'installe pour déguster un plat chaud, comme ce cité plus haut, arrosé cette fois avec du rouge, puis un bout de fromage ou de la cervelle de canut, qui est donc le dessert du petit déjeuner. Cette tradition, selon un site dédié à ce repas, a été ensuite fort malmenée par les nouvelles organisations du travail. Blablabla. Oh. Mais heureusement, le mâchon a trouvé d'ardents défenseurs, les bien nommés francs-mâchons. Qui depuis 1964 perpétue chaque année la tradition des mâchons et décerne des diplômes aux restaurateurs qui accueillent régulièrement, dans l'excellence s'il vous plaît, des convives dès 9h du matin. Donc si vous voyez un bouchon ouvert à partir de 9h, c'est plutôt bon signe et c'est même un gage majeur d'authenticité. Maintenant vous savez comment choisir vos bouchons.
Ouais, c'est bien. Pratique.
Les francs mâchons, ces apôtres de la cuisine matinale, forment une confrérie de 40 membres, ni plus ni moins, attention. Ils ont essaimé à Paris, dans le Beaujolais et dans le Mâconnais. Il n'y a que des hommes dans ces confréries, encore désolé les filles, et tous âgés de 30 ans minimum. Donc c'est pas encore ton tour, Thomas. Hein.
Oui, je prendrai ma carte après.
Comme dans toute confrérie, il y a un parcours initiatique à respecter pour entrer. Et un parrainage de l'impétrant, n'est-ce pas, Thomas?
Encore.
La semaine de la gastronomie est pour les francs-bâchons le point culminant de leurs activités annuelles.
Ouais, bah, c'est tous les jours la semaine de la gastronomie.
Attention, là, ils organisent cette semaine-là un grand mâchon multiple et simultané à travers tout Lyon.
Mais c'est des barges, en fait, c'est des barges.
Cette année, c'était le 18 octobre, avec près de 23 restaurateurs lyonnais qui ont joué le jeu. Mais pour ceux qui ont manqué ce grand événement, il y aura la journée du 6 décembre prochain, juste avant la course, comme ça on peut se mettre en appétit avant de courir.
Je suis sûr, c'est ton repas, enfin je veux dire, ton repas d'avant-course, c'est ça quoi, c'est le mâchon. Hein.
Ça pourrait être pas mal
Le 6 décembre, qui sera la fête anniversaire des 50 ans de la confrérie, fêtée en grande pompe et grand mâchon au Petit Bouchon chez Georges, rue du Garret, lieu historique de création de la confrérie. Je laisse enfin la parole à Frédéric Dard pour une dernière évocation toute lyrique du mâchon. Lorsque le premier café a chassé le dernier sommeil et que l'avant-premier vin blanc a aiguisé le nouvel appétit, le corps et l'âme pleinement disponibles sont en idéal état de mange. C'est l'instant du plat cuisiné, du vin fruité, de l'amitié que nulle fatigue n'affaiblit. L'heure où l'on boit doucement pour faire naître la soif sans gâcher la faim. L'heure où le soleil se lève sur les lumineux visages des francs mâchons et leur dégouline dans le cœur via le gosier. Alors, à ce moment béni, capiteux, capital, les francs mâchons savent que si Dieu n'existe pas, il fait en tout cas rudement bien semblant. Et nous terminons cette chronique en chanson. À vous, chers auditeurs, bon appétit et large soif.
Ah que nos pères étaient heureux,
ah que nos pères étaient heureux,
quand ils faisaient la tâche. Le vin coulait à côté d'eux,
le vin coulait à côté d'eux,
ça leur était fort agréable, et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous, morts. Bien autrement que nous, morbleu, bien autrement que nous.
Elle me fatigue cette chronique. Et le pire, c'est que pendant qu'il y avait la chanson, il fallait voir la chorégraphie qu'elle nous faisait, Marie-Ève. Oh, il est temps qu'on arrive à la fin de l'émission. Marie, je t'ai pas trop vu bouger des bras là pendant que les mâchonneurs chantaient.
Bon, écoute, ta brioche au praline était très bonne tout à l'heure. Voilà, j'ai pas besoin de plus.
Ouais. Une petite idée de sortie, peut-être.
Alors, une idée de sortie, j'aimerais bien aller au Comédia, moi aussi. Alors, pas pour aller voir Massacre à la tronçonneuse, parce que c'est un peu gore pour moi.
Oh, petit chou.
Je supporte pas la vue du sang. Je suis plutôt branchée cinéma d'animation. Et je sais qu'à partir du 12 novembre, il y a 5 courts-métrages qui seront diffusés au Comédia. J'aimerais bien aller les voir. En particulier, il y en a un qui me tente bien, qui s'appelle The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore. Et voilà, je ne sais pas ce que racontent ces courts-métrages, mais ça m'intéresse.
Eh bien, c'est noté, Marie. Nina, est-ce que tu es film d'animation ou tu sors dans d'autres endroits?
Moi, je ne sors plus. Non plus.
Mais vous non plus. Alors, est-ce que tu prépares un marathon?
Non, moi, je travaille le week-end à côté des cours.
Ah oui.
Au sucre, du coup, je vois les gens s'amuser.
D'accord. Voilà. Bon. Alors, je n'insiste pas plus, je sens un peu de frustration. Je vais vous donner, moi, des conseils aussi pour sortir. D'abord au Comédia, dis donc, où le jeudi 13 novembre 2014 à 19h30, vous pouvez assister à l'avant-première du film Eden, en présence de sa réalisatrice et des acteurs. Le pitch, hein, c'est dans les années 90, Paul, qui fait ses premiers pas dans le milieu de la nuit parisienne. Il est passionné de musique, il crée avec son premier ami le duo de DJ Cheers. Ils trouveront rapidement leur public et vivront une ascension vertigineuse, dangereuse aussi, à découvrir donc en avant-première au Comédia.
D'ailleurs, sur le film Eden, il y a donc au Sucre, qui est un lieu culturel sur le toit de la Sucrière, un after de l'avant-première.
Ensuite, je vous rappelle que le prochain concert coup de cœur du Ninkasi, déjà annoncé lors de notre précédente émission, eh bien, il a lieu le mercredi 19 novembre. C'est gratuit et c'est rock avec notamment Nikki Hill. C'est sur cet air rock que l'on se quitte. Les Gones, c'est fini, mais si vous en redemandez, rendez-vous dans 2 semaines. Merci à nouveau à Nina et Simon du Génépi d'être venus. Merci. Un grand merci. Merci à Xavier, à la technique, parce que oui, ça y est, c'est redevenu une habitude. Nous enregistrons ce numéro d'Egon au studio professionnel avec l'aide de NS Media. Un grand merci également à Léo et à Mathias qui ont aidé Xavier à tout installer. Et puis à notre Nicolas aussi qui découvrait le studio pro et qui secondait pour l'occasion Xavier en envoyant les jingles. Merci à vous aussi, surtout chers auditeurs. N'hésitez pas, envoyez vos réponses à la question de la semaine. Qu'est-ce que le citral ? Ainsi que vos photos les plus insolites de Lyon dans le cadre de notre concours mensuel. Grâce à nos partenaires, le comédien Linkasi, il y a de beaux cadeaux à gagner. En tous les cas, je vous donne rendez-vous le mercredi 19 novembre pour le 5e numéro d'Egon. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.